Vous êtes avec SBS French.
Et les principales informations de ce mardi 22 décembre. 8 nouveaux cas de coronavirus détectés à Sydney, dont les habitants depuis ce matin sont indésirables dans tous les autres états du pays. Aux États-Unis, le président élu, Joe Biden, s'est fait vacciner en direct à la télévision. Et puis l'inquiétude qui monte à Bangkok, où les autorités ont recensé plus de 500 nouveaux cas de coronavirus en une seule journée. Et donc, je vous le disais, 8 nouveaux cas détectés aujourd'hui en Nouvelle-Galles du Sud, ce qui, depuis l'apparition d'un nouveau cluster dans le secteur d'Avalon, porte le total de cas positifs dans cet état à 90. Alors oui, le nombre de cas continue d'augmenter, mais de façon très modérée, d'autant qu'hier, les autorités ont testé plus de 44 000 personnes, un record dont se félicite la dirigeante de l'état, Gladys Perreger-Client.
That is a record we did not expect, and I feel so proud and deeply grateful that people have responded not just in the Northern Beaches community but throughout Sydney and throughout all of New South Wales, and that's exactly what we want and what we need to see continue. New South Wales is really pulling together to get through this stage of the pandemic.
Alors Sydney ne s'en sort pas trop mal, mais depuis ce matin, les 5 millions d'habitants de la ville sont officiellement devenus indésirables dans tout le reste du pays, l'ensemble des États ayant décidé de fermer leurs frontières ou d'imposer une quarantaine surveillée et payante à tous les habitants de Sydney et d'autres parties de la Nouvelle-Galles du Sud s'ils voulaient se rendre par exemple en Australie méridionale ou dans le Queensland. C'est une réaction précipitée et surtout exagérée d'après John Barilaro, le numéro 2 du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud.
We've seen them jump the gun in the past, and you know they treat the border like a light switch. They switch it on and off, and that's not how it works. A reminder to Premier Andrews is that we didn't shut that border until there was 140, 180 cases a day in Victoria before we decided to shut the border. You know, 10 or 15 or 20 cases, I don't think is merit.
Et c'est la fin d'une longue série sans aucun nouveau cas pour l'État du Victoria, où un porteur du coronavirus a été recensé aujourd'hui. A priori, il s'agit d'une personne qui était tout récemment dans le secteur des Northern Beaches à Sydney. L'État du Victoria n'avait enregistré aucun nouveau cas de transmission communautaire depuis 53 jours consécutifs. Direction maintenant l'Asie et plus précisément la Thaïlande où les autorités viennent de recenser plus de 500 nouveaux cas de coronavirus en une seule journée sur un marché aux crevettes de la capitale Bangkok. La population craint que cette nouvelle épidémie déclenche un nouveau confinement. On fait le point avec Carole Izou, la correspondante de RFI en Thaïlande.
500 cas en une journée, c'est un record pour la Thaïlande qui jusqu'ici avait apparemment réussi à maintenir le nombre total de cas avérés depuis le début de l'épidémie à 3000 personnes seulement. La plupart de ces nouveaux cas sont des travailleurs immigrés en provenance de Birmanie qui représentent la majorité du personnel de l'industrie de la pêche en Thaïlande. La province concernée, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale Bangkok, a été confinée sur ordre du gouvernement, tandis que des consignes ont été données aux entreprises partout dans le pays de favoriser le télétravail pendant les deux prochaines semaines. Mais l'inquiétude est grande de voir la capitale touchée par cette nouvelle vague. Le système de santé du pays, sous-financé et sous-équipé, ne pourrait pas résister à une vague de l'ampleur européenne. Seulement 60 personnes sont officiellement décédées du coronavirus en Thaïlande, l'un des taux de mortalité affichés les plus faibles au monde. Carole Izou, Bangkok, RFI.
Et aux États-Unis, le président élu Joe Biden a reçu sa première dose de vaccin contre le coronavirus en direct à la télévision, comme il s'y était engagé. L'objectif, c'est de convaincre les Américains que se vacciner, c'est sans danger.
What I want to say is we owe these folks an awful lot. The scientists and the people who put this together, frontline workers, this is great hope. I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. I'm looking forward to the second shot.
Et pour être tout à fait complet, il a été vacciné avec le vaccin produit par les laboratoires Pfizer-BioNTech. C'est celui-là qu'a reçu Joe Biden. Il s'est par ailleurs engagé à délivrer 100 millions de doses de vaccins au cours des 100 premiers jours de son mandat, de quoi immuniser 50 millions de personnes. Et puis en Europe aussi, l'arrivée des vaccins se précise. L'Union européenne vient d'approuver l'utilisation du vaccin fabriqué par Pfizer, le même qu'a pris Joe Biden. Il sera disponible dans les 27 pays de l'Union européenne dès qu'il aura reçu l'approbation de l'Agence européenne du médicament. C'est ce qu'a expliqué la présidente de l'UE, Ursula von der Leyen.
Today we add an important chapter in our fight against COVID-19. As we have promised, this vaccine will be available for all EU countries at the same time, on the same conditions. This is a very good way to end this difficult year and to finally start turning the page on COVID-19.
Et puis, la nouvelle souche du virus qui a été détectée ces derniers jours au Royaume-Uni a provoqué le reconfinement de tout le pays. Cette mutation du Covid-19 serait beaucoup plus virulente que la précédente. En revanche, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il n'y a pour l'instant pas de preuve que cette nouvelle souche, soit plus mortelle que la précédente, ni qu'elle puisse résister aux vaccins qui viennent d'être développés. La priorité pour le directeur des programmes d'urgence de l'OMS, Michael Ryan, ça reste la suppression de la transmission du virus.
We don't have evidence that this virus will change the severity, the diagnostics or the value of vaccines going forward. As we enter the holiday period, we need to stop all SARS-CoV transmission. We know how to do this. We know how to suppress transmission. We know how to protect ourselves and how to protect others. And we must focus on what we can do and what we do know rather than what we don't know. Science will find the answers for what we don't know.
Et puis, pour éviter d'être atteint par cette nouvelle souche, une vingtaine de pays ont déjà annoncé qu'ils suspendaient leur liaison aérienne avec la Grande-Bretagne, parmi lesquels la France qui a annoncé la fermeture de ses frontières pour un délai de 48 heures. Et pendant ce temps, à Bruxelles, l'UE réfléchit à une position commune sur la question qui devrait être dévoilée dans la journée. On va écouter les explications de Juliette Gerbrandt pour RFI.
Les annonces des 27 sont très attendues, que ce soit par les nombreux ressortissants européens coincés au Royaume-Uni ou par les Britanniques résidant à l'étranger et qui aimeraient bien rentrer chez eux. L'Espagne a d'ailleurs annoncé qu'une exception serait accordée aux personnes qui se trouvent dans l'un de ces cas de figure. Le pays est particulièrement concerné en raison de sa frontière terrestre avec l'enclave britannique de Gibraltar, où les contrôles vont d'ailleurs être renforcés. Si Madrid a attendu cet après-midi pour limiter la circulation en provenance du Royaume-Uni, c'est parce que le chef du gouvernement Pedro Sanchez réclamait depuis les premières heures des règles communes au sein de l'Union européenne. Parmi les points en discussion figurent la stratégie de dépistage et des mesures sanitaires qui doivent être mises en place à l'arrivée sur le sol de l'Union européenne et aussi la durée des restrictions qui pour l'instant varient beaucoup d'un pays à l'autre. De son côté, le Premier ministre Boris Johnson a convoqué une réunion de crise aujourd'hui. Cette nouvelle alerte sanitaire s'ajoute à la perspective d'un échec des négociations sur l'accord commercial post-Brexit et à Douvres, des milliers de chauffeurs de poids lourds sont en ce moment même bloqués dans leurs véhicules.
Dans le reste de l'actualité, le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, sera à bord du premier vol direct entre Israël et le Maroc, le dernier État à prédominance musulmane à normaliser ses relations avec Tel Aviv. Une avancée diplomatique qui s'inscrit dans le cadre de ce qui a été baptisé les accords d'Abraham, qui ont été pilotés par le même Jared Kushner. Écoutez-le.
We will very proudly advance the Abraham Accords with the first direct commercial flight on El Al from Israel to Morocco. This will bring about a whole new set of opportunities for Northern Africa and the entire Middle East. As this new Middle East moves forward, I hope that all countries will focus on pursuing common interests for the benefits of their citizens instead of being held back by stale thinking and old conflicts.
32 ans jour pour jour après l'attentat de Lockerbie au cours duquel 270 personnes ont été tuées, les autorités américaines viennent d'annoncer l'inculpation d'un ressortissant libyen soupçonné d'avoir fabriqué la bombe qui a explosé à bord d'un avion de la compagnie Pan Am au-dessus de l'Écosse. À New York, on fait le point avec Lubna Anaki pour RFI.
C'est un nouveau chapitre qui s'ajoute à l'une des plus longues enquêtes antiterroristes. La justice américaine annonce l'inculpation d'Abou Ajila Mohamed Massoud, un ancien agent des services secrets libyens. Il est accusé d'avoir assemblé la bombe qui a explosé à bord de l'avion de la compagnie Pan Am au-dessus de l'Écosse, faisant 270 morts. 190 étaient des ressortissants américains. L'annonce a été faite ce matin par le ministre de la Justice américain pour qui la boucle est désormais bouclée, car c'est William Barr lui-même qui avait initié cette enquête lorsqu'il était ministre de la Justice sous George Bush père. Ce matin, il a déclaré, je cite, « que les choses soient claires, ni la distance, ni le temps qui passe n'empêcheront les États-Unis et leurs partenaires en Écosse d'obtenir justice dans cette affaire ». Le ministre de la Justice dit également espérer que les autorités libyennes accepteront d'extrader l'artificier présumé qui serait actuellement en prison pour d'autres crimes. Jusqu'ici, seul un homme avait été condamné pour l'attentat de Lockerbie. Lui aussi faisait partie des services secrets libyens. Il est décédé en 2012 d'un cancer. Loubna Anaki, New York, RFI.
Et puis direction maintenant la Centrafrique où malgré les tensions et les violences qui secouent le pays depuis quelques jours, le président Faustin Archange Touadéra refuse catégoriquement de reporter les élections qui sont prévues d'ici quelques jours le 27 décembre. C'est ce qu'il a expliqué à Juliette Martin, correspondante de RFI à Bangui.
Le 27, nous allons aux élections. Maintenant que nous avons retrouvé l'ordre constitutionnel, on doit maintenir cet ordre-là pour la démocratie dans le pays. Malheureusement, certains sont engagés dans des voies de violence que nous condamnons.
Pas question de négocier.
Négocier comment? Sous quelle forme? Parce que là, vous voyez bien qu'il y a des attaques et tout. On n'a pas le temps de négocier. On ne sait pas avec qui négocier. Et on a négocié pendant 3 ans. On était accompagnés. On s'était retrouvés dans une discussion à Khartoum. Nous continuons à mettre en œuvre cet accord. À respecter nos engagements. Nous demandons à nos frères qui ont pris les armes d'en faire autant. On était dans une situation de transition. Maintenant que nous avons retrouvé l'ordre constitutionnel après le forum de Bangui, on a voté une constitution. Nous sommes en train de mettre en œuvre, appliquer cette constitution. Est-ce qu'il faut absolument prendre les armes pour résoudre les problèmes, pour accéder au pouvoir? Je ne pense pas. Il y a les institutions de la République qui sont là. On doit tout simplement aller aux élections. Transition, c'est un recul.
Et pour finir, on va jeter un œil à la météo de ce mardi en Australie. Il fait 35 degrés et très beau aujourd'hui à Perth. 23 degrés à Adélaïde où le temps en revanche est nuageux. Il pleut à Melbourne et le thermomètre affiche 19 degrés. 10 degrés de plus à Sydney, jusqu'à 29 degrés aujourd'hui où la grisaille devrait normalement dans l'après-midi laisser la place à un ciel plus dégagé. Des averses aussi à Brisbane où il fera jusqu'à 34 degrés et 31 degrés à Darwin où la pluie pourrait être accompagnée dans l'après-midi par des vents violents.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.